Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Il y a près de 20 ans que je fais ce travail, que j'anime cette émission Délivrez-vous. Je l'ai fait dans plusieurs radios et depuis quelques années maintenant, je le fais pour C2L à Chalette-sur-Loin. Et tout au long, bien évidemment, de ces années, j'ai rencontré des auteurs avec qui, bien souvent, le rythme est passé, l'amitié aussi s'est nouée, sans pour cela forcément que l'on se voit, mais les échanges, les paroles aussi, et puis la confiance. Et pour parler de confiance, eh bien, je pourrais vous parler de cet auteur que je reçois aujourd'hui parce que c'est une véritable confiance qui s'est, je pense, installée entre nous depuis 20 ans. Elle m'a toujours fait l'honneur d'être fidèle à l'émission, de me confier ses ouvrages et d'en parler avec elle. Donc c'est de nouveau un plaisir et un bonheur de la retrouver. Alors, elle a quitté un petit peu Aliénor et là, nous allons aller à la rencontre d'une héroïne oubliée, et elle me disait hors micro que c'est une héroïne qui l'a beaucoup beaucoup ému. Et bien, je dois dire aussi que moi, à la fin du livre, j'étais toute retournée. Voilà, donc j'ai toujours le plaisir, l'honneur et l'avantage, et aussi la grande joie de recevoir Mireille Calmel. Bonjour Mireille.
Bonjour Mireille, je dois dire que c'est un vrai plaisir pour moi aussi depuis 20 ans d'échanger avec vous et de partager ces moments-là avec vos auditeurs.
Merci infiniment. Alors, je vous retrouve pour ce nouveau roman historique d'écume et de sang aux éditions Ixo. Alors, c'est un personnage, moi, qui m'a touchée, qui m'a fait trembler. En plus, il est écrit d'une manière assez particulière parce que c'est à la première personne du singulier. C'est une sous forme de confession. Oui. C'est 1359, donc 14e siècle. Et c'est une femme, Jeanne de Belleville, qui par amour, eh bien, va se venger du roi de France. Bien, elle va remuer ciel et montagne, franchir tout un tas d'obstacles pour cet amour qu'on lui a retiré. Mais moi, ce qui m'a interpellée, c'est comment avez-vous rencontré Jeanne de Belleville, Mireille?
Eh bien, c'est venu au fil du temps. En fait, j'ai fait sa connaissance en 2005 après avoir écrit Les Dix Pirates. Oui. On m'a demandé d'écrire un petit roman pour un magazine. Et je me suis dit, tiens, qui a été la première pirate de l'histoire? Et donc, j'avais découvert son histoire comme ça, mais ça m'a pas suffi. J'ai raconté cette petite histoire et je crois qu'elle est restée dans un coin de ma tête. En tout cas, je suis certaine qu'elle m'a hantée sans que je le sache. Mm-hmm. parce qu'elle est revenue d'un coup pendant le confinement, et ça a été avec une violence telle que qu'il a fallu que j'écrive et que ce soit de manière impérieuse. Et je mm-hmm. dois dire que c'est sans doute la première fois que j'écris de cette manière.
Mm, oui. Alors, On vous mettait souvent les femmes à l'honneur, hein, tout au long de vos romans historiques, bien sûr, sans parler d'Aliénor Aquitaine, il y en a bien d'autres, mais on le sent dans votre écriture, dans le jeu de Jeanne de Belleville, il y a le jeu de Mireille Calmel.
Bah, il y a le jeu de Mireille Calmel, mais il y a surtout le sien, parce que,
oui,
comme je vous disais,
bien sûr.
Vous savez, depuis longtemps, maintenant, vos auditeurs savent tout à mon sujet. Hein. Et vous savez donc que j'écris, que ma manière d'écrire est un peu particulière, puisque oui. Je fais des rêves récurrents qui, de nuit en nuit, m'amènent sur les traces réelles de mes personnages. Oui. Là, ça a été un petit peu différent. Là, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle me racontait l'histoire, au point que je me suis réveillée une nuit avec l'impression d'être en train de mourir, tellement c'était violent. Oui. Et j'ai mis un très long temps avant que mon cœur se calme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est qui? Et j'ai fini par me rendormir et c'est revenu avec de la même manière aussi brutalement, jusqu'à ce que je comprenne que c'était elle. Et là, je me suis dit, waouh, ça fait si longtemps que ça qu'elle a quelque chose à me raconter, mais j'étais pas prête à l'entendre. Et à partir de là, effectivement, c'est devenu une espèce de tourbillon que je n'ai pu maîtriser, au point, je vais même vous avouer quelque chose que je ne devrais pas dire si on va me prendre pour une folle, hein, au point qu'à par deux fois, très exactement, à plusieurs jours d'intervalle, je tape sans regarder mon écran, et quand j'ai levé les yeux, il y avait des phrases écrites en vieux français. Vous voyez, pour vous dire à quel point elle m'a hantée, cette dame.
Non, mais de votre part, rien ne m'étonne et je vous crois sur parole. Je pense que vous êtes hantée et habitée par tout un tas de personnages et d'histoires. Ça, j'en suis
convaincue. En tout cas, elle a été d'une violence inouïe parce que c'est un personnage hors du temps, hors des codes.
Oui.
Et quand je dis qu'elle m'a bouleversée, c'est à plus d'un titre. Et certaines scènes ont été très dures à écrire.
Oui,
moi, en tant que mère, je me suis dit, mais non, je peux pas raconter ça. Je ne peux pas écrire ça, c'est pas possible. Et c'était d'une telle impériosité qu'il a fallu que je le fasse parce que non seulement moi je le ressentais comme tel dans sa, enfin j'allais presque dire dans sa bouche, mais les faits historiques étaient là, réels, et prouvaient que effectivement ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait. Alors elle l'a fait au nom de l'honneur,
au nom de l'amour. Oui.
C'était une femme qui n'était absolument pas destinée du tout à la violence. Elle est tombée éperdument amoureuse, c'était son seul crime.
Et on lui a retiré l'homme qu'elle aimait.
Et on lui a retiré de manière très violente.
Très violente.
Très, très violente. Oui. Et ça, c'était inacceptable pour elle. Parce qu'elle a mis très longtemps avant de pouvoir rejoindre cet homme, avant de pouvoir l'aimer, avant d'avoir le droit de l'aimer.
Avoir le droit de l'aimer. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Je ne pensais pas avoir le droit de l'aimer.
Et puis pendant 13 années de ce bonheur, ça a été une espèce de feu d'artifice. Et puis la guerre de 100 ans est arrivée.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, 1359, c'est la guerre de 100 ans.
Oui. Et puis la guerre de succession au duché de Bretagne est arrivée. Et elle et son époux, qui était quand même un des plus puissants seigneurs bretons, se sont retrouvés vraiment au cœur de ces deux guerres. Avec la difficulté de choisir un camp, même si Olivier de Clisson était voué au roi de France et que jamais, dans sa tête, il n'aurait pu trahir le roi de France. Et
elle était dame de Clisson et de Montaigne.
Dame de Clisson et de Montaigu. Et seigneur de Clisson. C'était des personnages parmi les plus influents de la Bretagne.
Au XIVe siècle,
Voilà, tout à fait. Puisque c'était vraiment, c'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas imaginer trahir, mais le roi de France, à un moment donné, a considéré qu'Olivier de Clisson avait trahi la couronne. Et il l'invite à un tournoi. Olivier de Clisson emporte toutes les manches. Il est déclaré vainqueur du tournoi. À l'issue du tournoi, le roi de France le fait arrêter et le fait décapiter sans autre forme de procès. Et c'est ce que Jeanne voit en arrivant à Nantes. C'est la tête de son époux sur une pique. Elle est avec ses deux enfants et là, sa vie bascule complètement. Et elle devient à ce moment-là la pire ennemie du roi de France. Parce que ce n'est pas juste. Et que vous savez comme moi que l'injustice quand elle vous tient au cœur, quand elle vous prend au trip, elle vous amène à tout.
Oui. Alors le titre d'écume et de sang, je me suis dit sans doute parce que elle est entre terre et mer.
Mais en fait, c'est une des phrases du livre.
Oui, oui.
Voilà. C'est une des phrases du livre.
D'écume et de sang.
Sans doute les plus difficiles que j'ai eu à écrire, où cette scène-là se passe dans une aube d'écume et de sang. Oui, voilà, tout à fait. Le sang qu'elle a répandu.
Le sang qu'elle a
répandu. Et à la fois, évidemment, on ne le dira pas pour vos auditeurs.
Non, on va laisser découvrir les choses, bien sûr.
Mais c'est vrai que c'est un... Vous savez, vous me connaissez depuis 20 ans, Claudine. Je ne vous ai jamais dit que c'était mon meilleur livre. Cette fois, je peux vous le dire. Je suis à peu près certaine que c'est mon meilleur livre.
En tout cas,
sur le plan de l'émotion, je veux
dire. Mais l'écriture a évolué, mais dans la perfection. C'est-à-dire, c'est devenu plus pointu, plus précis. Et en plus, aujourd'hui, transparaît l'émotion, ce que vous pouvez ressentir. Et surtout, les personnes sont de plus en plus vivants. Donc ça, pour nous lecteurs, c'est un vrai bonheur. Voilà, on le ressent.
Elle était tellement vivante, j'avais l'impression qu'elle avait sa main sur mon épaule et c'est elle qui chuchotait.
Moi, ça m'a... À la fin du livre, j'étais un peu secouée. Ce qui est aussi étonnant, c'est que c'est une femme au demeurant, je dirais, assez calme. Voilà, elle a son mari, elle a ses enfants. Mais le fait que l'on exécute son mari, c'est comme, vous savez, c'est comme si on lui avait planté un couteau et qu'on était parti de sa gorge et qu'on était descendu au long de son ventre comme ça. Ça a fait mille couteaux en elle et ça a déclenché une forme de fureur. Mais justement, c'est une forme de confession, mais elle le fait, je trouve, d'une grande sincérité et d'une grande simplicité aussi, cette confession.
Ah oui, complètement. J'ai l'impression par moments que ce sont vraiment ses mots et pas les miens, même si je suis restée maître, bien évidemment,
bien sûr,
en écriture.
Bien sûr.
Mais c'est... oui, c'est ça, quoi. C'est cet absolu qui la pousse de l'avant, mais sans remords ni pitié, parce que, encore une fois... c'était pas quelqu'un de mauvais, c'était pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui entre en guerre, qui devient un véritable chef de guerre. Oui. Alors c'est vrai que Jeanne d'Arc l'a un peu éclipsée de l'histoire de cette guerre de 100 ans, mais clairement, elle en est l'une des figures majeures et elle n'a pas laissé de répit ni sur terre ni sur mer. Imaginez, je veux dire, cette femme qui n'était, j'allais presque dire, une femme au foyer, brusquement se retrouve à la tête de 5000 hommes,
D'une armée,
à la tête d'une armée violente qui va prendre des châteaux, qui elle part vraiment en guerre,
qui va tuer, arme au poing,
qui arme un vaisseau qu'elle appelle Ma Vengeance.
Ma Vengeance, oui.
Et devenir pirate. Alors pirate, pourquoi? Parce que le terme de corsaire n'existait pas à l'époque.
Non.
Il a été créé bien plus tard. Mais si on l'a replacé dans le contexte,
elle aurait pu être corsaire.
Elle aurait été corsaire
complètement.
Elle devient elle se met au service du roi d'Angleterre pour pouvoir se venger du roi de France.
Elle devient la terreur du roi de France. Hein.
C'est ça, c'est hallucinant. Et puis, bon, évidemment, il ne se passe pas que ça, parce que ça représente une partie du livre, mais son parcours, c'est une menace de loup, elle fait des choses assez extraordinaires pour une femme de son époque. Oui. Et on l'a un petit peu oublié. Alors, c'est à la fois un vrai roman d'aventure, un vrai roman de vengeance, d'amour, en tout cas, c'est, enfin, moi, il m'a marqué à jamais. Voilà, je ne sais pas ce qu'il en sera de mes lecteurs. Enfin, quoi que les premiers retours que j'ai vont un peu dans ce sens-là.
Oui.
Mais je pense qu'il ne laissera personne indemne.
Mais c'est surtout qu'au milieu du XIVe siècle, à 1359, c'est quand même une période assez assez trouble aussi, bien évidemment, où les femmes sont un peu reléguées au second plan. C'est pas une époque très facile pour les femmes. Et justement, cette femme-là qui, comme vous dites, qui va diriger 5000 hommes, qui va s'arc-bouter contre le roi de France, qui va prendre tous les risques aussi, c'est assez... c'est ça qui m'étonne, c'est que par rapport à tout ce qui s'est passé, comment est-ce qu'elle a pu tomber dans les oubliettes à ce point-là? C'est ça qui est étonnant.
Je pense parce que justement, elle est devenue l'ennemie du roi de France, vous savez, c'est toujours pareil. Oui. À un moment donné, Jeanne d'Arc était l'ennemie du roi de France, donc elle est restée. Vous savez, c'est un peu comme Aliénor, à un moment donné, on a évité de parler d'elle parce qu'elle, soi-disant, elle avait trahi la France en épousant l'Anglais. Mmh. Bien voilà, Jeanne de Belleville, à un moment donné, elle s'est tournée vers les Anglais pour faire justice.
Pour se venger, oui.
Et donc, clairement, l'histoire n'aime pas les traîtres, mais est-ce que c'est elle? Vous savez, à un moment donné, elle le dit dans le livre... ce n'est pas Olivier qui a trahi le roi de France, c'est le roi de France,
qui a trahi Olivier.
Et donc sa vengeance est à la hauteur de cette trahison.
Alors comment, je suppose que vous êtes allé à la rencontre d'un tas de documentation, ça vous a demandé sans doute du temps. Comment ça s'est passé?
Un peu comme pour mes autres livres, j'avais déjà pas mal d'informations sur elle. J'ai eu la chance de rencontrer aussi des historiens, des amis qui sont des spécialistes d'elle, comme Élie Durel, qui a écrit un magnifique livre sur Jeanne de Belleville aussi. Et vraiment, j'ai été à l'écoute de ce qu'ils avaient eux aussi découvert sur elle et qui confirmaient mes impressions. Et puis, on a quand même beaucoup d'informations la concernant. Donc, ça n'a pas été très difficile de trouver.
Malgré tout.
Trouver malgré tout, tout à fait. Parce que Olivier, son fils qu'elle entraîne dans ses aventures, a laissé
des traces.
Une confession.
Alors, surtout, c'est étonnant aussi, c'est l'époque à laquelle tout cela se passe, c'est la guerre de 100 ans. Alors, on sait aussi que c'est une époque.
C'est le début, hein.
C'est le tout début, donc on sait que c'est une époque alors là qui a duré très longtemps et ça n'a pas été très facile. Et justement, elle arrive quand même. C'est ça qui est étonnant, c'est que au début de cette guerre, elle arrive à se rebeller contre le roi de France par rapport à ce qu'on lui a fait. Elle aurait pu être dès le départ arrêtée, elle aurait pu être aussi tuée avec son époux, mais c'est ça justement cette force qu'elle a mis alors que l'époque ne s'y prêtait absolument pas pour prendre les armes et faire ce comment dirais-je.
Elle a riposté si vous voulez, mais forte aussi de la sidération qui a été celle de tous les barons bretons, puisque personne n'a compris le geste du roi de France. Et puis Olivier de Clisson n'a pas été le seul. Hein. Ils ont été une quinzaine arrêtés en même temps que lui et exécutés aussi.
La plupart,
parmi les plus puissants du peuple breton. Donc il y avait un intérêt.
La vie ne valait pas cher quand même. Hein. La vie ne valait pas cher.
La vie ne valait pas cher. Puis surtout, il y avait la Bretagne qui était en jeu.
Plus,
la Bretagne, comme l'Aquitaine à cette époque-là, était extrêmement extrêmement riche.
Oui.
C'était une
puissante,
terre
c'était puissant.
D'indépendance, puissante, indépendante. Oui. Et donc, tout le monde rêvait de mettre la main dessus. À partir de là, il était évident que le roi de France, en éliminant ceux qui pouvaient lui faire résistance, s'octroyait une plus grande liberté d'agir. Sauf qu'il ne s'attendait pas à avoir véritablement autant de rancœur derrière lui. Quoi. Il pensait qu'il avait soumis les trois quarts des barons bretons et qu'il ne les entraînerait pas. Et puis surtout, il ne pensait pas qu'une femme en serait capable.
Ouais. Mais c'est surtout ce
il ne la connaissait pas. Elle était soi-disant la plus belle femme du royaume,
oui.
même le disait.
Oui.
Donc on l'a cantonnée à ce rôle-là. C'était une très belle femme, moi, qui ne devait s'occuper que...
que des enfants, du foyer, c'est ça.
Des terres, c'est tout.
Comme les femmes à l'époque.
Cette belle ville, elle avait reçu une éducation courtoise, elle a été instruite, on lui a appris beaucoup plus de choses qu'on aurait dû. Et son modèle, c'était Aliénor. On n'est pas si loin.
Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs,
l'ombre d'Aliénor d'Aquitaine était toujours là.
Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'à l'époque, on ne voulait surtout pas que les femmes soient instruites. Il fallait surtout qu'elles en sachent le moins possible, qu'elles ne sachent pas lire et qu'elles n'aient qu'à la quenouille et s'occuper du foyer.
Jeanne était. Et puis en Bretagne, les femmes étaient des femmes fortes.
Les Jeannes sont fortes, Jeanne d'Arc, Jeanne de Belleville.
Les Jeannes sont fortes. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y en avait une autre, Jeanne la Flamme, que j'ai déjà évoquée dans un de mes romans qui s'appelait La fille des Templiers, qu'on retrouve dans celui-ci, et parce qu'elle a été, elle aussi, en fait, on a parlé de la guerre des deux Jeannes, mais en réalité, c'était presque la guerre des trois Jeannes.
Des trois Jeannes, c'est vrai. Mais surtout, c'est ce qui est étonnant aussi, au vu de l'époque, c'est qu'elle a pu entraîner autant de personnes derrière elle. Vous rendez compte, une armée de 5000 hommes pour une femme au XIVe siècle. C'est un truc extraordinaire. Moi, je revenais pas. Alors, après,
mais parce qu'encore une fois, elle a joué sur la sidération des barons.
Oh, oui, d'accord.
Elle a dit, ce n'est pas juste, ils sont tous venus derrière elle. Donc, je crois qu'il y avait aussi cette espèce de d'alliance très forte entre les gens parce que les Bretons sont un peuple fier,
ils sont toujours très
attachés à la valeur, attachés à l'honneur, au sens de l'honneur, et à partir du moment où le sens de l'honneur est bafoué, il faut lui rendre justice,
Quels sont les héritages de Jeanne de Belleville aujourd'hui?
Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Alors, ce qui nous reste, c'est le château de Clisson,
bien sûr,
qu'elle a fait bâtir avec son mari. Il y a le château de L'Île-Dieu qu'elle a fait remonter, qui est très beau. Effectivement, toute la demeure de Clisson, mais qui se visite encore. Donc, je vous invite, si vous avez envie d'aller faire un petit tour du côté de Clisson.
J'y ai pensé.
C'est très beau. Voilà, il y a toute cette... Il n'y a pas d'héritage, si vous voulez, si ce n'est que son fils a fini par redorer le blason de son père, ce qu'elle n'arrive pas à faire de son vivant, et lui devient connétable de France, et lui, même s'il acquiert un surnom effroyable, sans doute lié à ce qu'il a vécu avec elle, puisqu'on l'a surnommé le boucher.
Le boucher, oui.
Pour vous dire que voilà, pas simple à porter. Il n'est pas resté énormément de traces, si ce n'est, je vous dis, vraiment dans l'histoire, puisqu'il a vraiment redoré le blason et que la famille de Clisson, après, a été, j'allais dire, lavée de tout déshonneur. Mais d'elle, au contraire, on s'est évertué à...
Il n'y a pas de tapisserie, pas beaucoup de tableaux.
Il y a quelques iconographies par-ci, par-là, mais c'est relativement peu au regard de
De ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a développé, de ce qu'elle a réussi à surmonter aussi, à surmonter. En plus, elle était toute jeune.
Elle était assez jeune, puisqu'elle a rencontré Olivier, elle avait 13 ans.
13 ans,
et puis, après, elle a été mariée pendant quelques années.
Oui.
Enfin, voilà,
Elle n'avait pas 30 ans. Bon, à l'époque, 30 ans... C'était déjà beaucoup.
J'allais dire, oui, c'est jeune pour nous, mais
pour eux. Pour eux, 14e siècle, moitié du 14e siècle, c'est vrai que ça commençait. Enfin bon, elle était pleine d'allant et pleine de force. D'ailleurs, c'est quand même assez. Comment est-ce qu'on sort aussi d'une histoire comme ça? Vous l'avez. C'est comme Aliénor, elle vous poursuit, vous arrivez pour la suite, pour écrire d'autres choses, ou on arrive à en sortir?
À la faire taire. C'est pas facile. Ouais. Mais j'avais écrit avant de m'attaquer à elle, j'avais écrit le livre qui sortira en octobre.
Ouais.
Donc du coup, ça a été facile de m'y remettre pour les corrections, puisque là, j'avais pas d'écriture réelle à faire. Et je ne me remettrai vraiment à l'écriture qu'en octobre. Donc du coup, quand celui-là va sortir. Et c'est un monde complètement différent dans lequel je vous entraîne. Alors c'était facile, voilà. C'était facile parce que là, pour une fois, je m'attaque à de la légende pure, puisque je revisite le mythe arthurien à ma sauce.
Ah, oui, d'accord, oui, c'est beaucoup plus facile, oui, c'est bien sûr, c'est beaucoup plus facile.
Morgane, du jeune Arthur, il a 16 ans, et il ne sait pas encore qui va devenir roi, donc c'est vraiment les prémices de la matière de Bretagne, et même si je me suis appuyée sur les plus récentes recherches archéologiques et tout le savoir des historiens qui ont travaillé sur la légende arthurienne, c'est un défi que j'avais envie de relever par rapport à ma propre enfance, puisque je me suis, à l'époque où j'étais malade, je me suis beaucoup évadée dans la légende arthurienne. Grâce d'ailleurs à Marion Zimmer Bradley, évidemment, avec les Dames du Lac. Et ça a été vraiment un moyen pour moi.
Ça, c'était magnifique,
de sortir,
les Dames du Lac.
De me sortir tout ça. Et j'avais envie, j'ai toujours eu envie, mais je n'osais pas. Et puis là, je me suis dit, pourquoi pas.
Moi, j'ai une suggestion à vous faire, parce que moi, j'adore l'histoire de l'Écosse. Et ce serait pas mal de vous pencher sur l'histoire des clans écossais entre le 9e et 12e siècle.
J'y ai pensé aussi.
Ah ouais, ça me passionne. Moi, ça me passionne, voilà. Ça. Ah ouais, ça me passionne. Alors là, parlez-moi avant, parce que je peux vous donner des infos. J'ai plein de bouquins. J'adore. Ouais, j'adore. Et puis il y a un auteur qui est très bien, qui parle très bien de ça. C'est Alexiane Thiel, qui raconte très bien ce genre d'histoire. Jeanne de Belleville, donc. On le disait, elle a 30 ans. Bon, c'était vieux pour l'époque, mais jeune pour nous. On parlait de ce qui pouvait rester. Est-ce qu'il y a une forme de légende autour d'elle malgré tout?
Non.
Non, même pas non plus.
Si on raconte qu'elle a été femme pirate et qu'elle
voilà.
Mais à part ça, non, il n'y a pas vraiment, d'autres choses.
Est-ce qu'on peut dire malgré tout que on a décidé de faire taire l'histoire à son encontre?
Je suis pas sûre qu'on ait décidé. Je pense que ça s'est fait
naturellement.
Naturellement, oui.
Jeanne d'Arc a un peu tué la chose aussi, ce qu'on disait tout à l'heure.
Voilà, tout à fait. C'est Jeanne d'Arc qui est arrivée et qui a pris sa place, toute la place.
De décrire au sujet de femmes comme ça, très fortes, très emmenées, qui ont vécu des choses, c'est une façon pour vous de faire une forme d'égalité homme-femme, c'est-à-dire de remonter l'histoire, de dire voilà, il y a eu des femmes aussi, les hommes n'ont pas fait forcément de belles choses, les femmes étaient là pour redorer le blason, mais elles étaient aussi capables de vengeance, de prendre les armes et de se battre.
Oui, elles ont été les égales des hommes à ce moment-là aussi. Évidemment, pas toutes.
Oui,
c'est toujours pareil. Celles les plus fortes, celles les plus tenaces, et puis celles qui avaient les raisons de le faire ont fait. Mais elles tenaient leur place. Elles tenaient vraiment leur place. Il faut arrêter de penser que le Moyen-Âge était juste des temps obscurs dans lesquels les femmes étaient complètement soumises. Elles tenaient aussi une place, une très grande place, puisque les hommes étaient souvent au combat et c'était elles qui dirigeaient à peu près tout ce qu'il y avait à faire. Et puis il ne faut pas oublier qu'elles avaient des métiers, qu'elles avaient vraiment une place très importante dans la société. Donc c'était pas ce n'était pas que des femmes fragiles. Voilà, elles sont devenues fragiles après, mais à cette époque-là, elles n'étaient pas que fragiles. Elles ne s'occupaient pas juste de leurs enfants. Et encore, quand elles s'en occupaient d'ailleurs, parce qu'il y avait des précepteurs,
elles s'occupaient. Elles les mettaient au monde, et puis après, les gens s'occupaient des enfants.
Si vous voulez. Je ne sais pas si je cherche véritablement à redorer quoi que ce soit. Elles arrivent un petit peu comme ça, par le biais de ses rêves. Elles s'imposent. Est-ce qu'elles ont
Elles se servent de vous. Elles se servent de vous.
Moi, je suis passeuse de mémoire.
passeuse d'âme et de mémoire.
J'ai vraiment ce sentiment-là d'être une passeuse de mémoire et d'être là pour ça, pour raconter leur histoire. Mais j'attends le moment où un homme valeureux va venir sur ma plume aussi. J'ai pas de.
Il y a Richard Cœur de Lion.
Oui, il y a eu Richard, mais parce que c'était le fils de... Voilà, c'était la continuité.
Et oui,
de,
bien
de
sûr, bien sûr,
son
bien
fils.
Sûr, c'est vrai.
Je pense que les femmes de tout temps, de toute manière, certaines ont voulu être les égales des hommes et par certains côtés le sont devenues.
Voire supérieures.
Voire supérieures, bien sûr. Moi, j'avais un ami qui disait, je ne veux surtout pas que les femmes que les femmes revendiquent l'égalité parce que ça fait trop longtemps qu'elles sont supérieures aux
bien
hommes,
elles
perdraient.
De toute façon, le monde est dirigé par les femmes, de toute façon, n'en déplaise à ces messieurs.
Voilà, maintenant, il faut juste que ça se sache.
Voilà, c'est ça, on va essayer, on va tout faire. Hein. Alors, on le disait tout au début de l'entretien, il y a le jeu, c'est le jeu de la confession de Jeanne de Belleville. Il m'a surpris, ça m'a un peu déroutée parce que je vous l'ai dit, il y a du Mireille Calmet, il y a forcément de Jeanne de Belleville, mais je veux dire, ça donne une force d'autant plus à l'écrit et au récit. C'est-à-dire que le jeu, il devient notre jeu à nous. Vous voyez ce que je veux dire?
Ben, vous allez voir par ses yeux, vous allez
oui.
pleurer avec elle, vous
oui,
allez rire
ça.
Avec elle, vous allez vous déchirer l'âme avec elle, exactement comme je l'ai fait, ça c'est certain. Elle a vraiment fait partie de moi et elle continue d'une certaine manière à faire partie de moi parce que au-delà de tout ça, de ses actes, il y a la résilience avec laquelle elle a réussi à survivre.
Oui,
et
oui.
C'est ça aussi que qui reste, je pense, à la fin du livre. C'est ce sentiment d'avoir été capable de vivre les événements avec elle et de les surmonter avec elle et donc du coup d'être plus fort pour affronter demain quoi qu'il vienne.
Mais cette force aussi, le fait qu'elle ait ses enfants, qu'on ait tué le père de ses enfants, ça, je pense que quelque part ça a apporté une autre valeur aussi à cette force-là, à cette envie de vengeance aussi.
Ah oui, mais de toute façon j'imagine que si elle n'avait pas, si on n'avait pas tué Olivier, elle n'aurait pas eu besoin déjà de se venger.
Et le fait d'avoir ses enfants, qu'on ait tué le père de ses enfants,
c'était
il y avait encore c'était un échelon et une marche supplémentaire pour aller.
C'est son cœur de mère qui est déchiré, c'est son cœur de femme qui n'existe
bien sûr.
Plus.
Enfin,
c'est, elle le dit, elle doit enfermer la femme et pleurer la mère dans une espèce de carapace et devenir une guerrière.
Une guerrière à part entière.
Une guerrière sans pitié, quoi.
Oui, sans pitié. En tout cas, elle l'aime et par la force des choses, parce que c'est le destin qui en a décidé ainsi. C'est vraiment une belle héroïne et c'est dommage que, on n'en ait pas pris connaissance avant, mais en tout cas, c'était grâce à vous l'occasion d'aller à sa rencontre d'écume et de sang aux éditions XO. Donc, vous nous avez dit, on vous retrouvera cet automne avec les légendes arthuriennes. Donc, ça, c'est pas mal non plus.
Ça s'appelle Morgane des Brumes et l'épée enchantée.
Eh ben voilà. Et puis, réfléchissez.
Attention, c'est le premier d'une série.
Oula.
Cette fois, voilà, personnage récurrent, mes séries.
D'accord.
Et je vous embarque.
Amener
Arthur à rencontrer les futurs chevaliers de la table ronde.
Ok, on va se laisser embarquer comme d'habitude avec grand plaisir, mais réfléchissez à mes histoires claniques écossaises. Voilà, d'écume et de sang chez XO avec Mireille Calmel, c'est de nouveau un plaisir de vous recevoir, de vous parler. Je vous souhaite un bel été et puis on se retrouve.
Aussi,
merci.
J'espère qu'on aura le plaisir de se rencontrer en studio ou ailleurs.
Oui.
Et puis,
au bout de 20 ans, on va dire qu'on va essayer d'y arriver. Allez,
on va essayer d'y arriver.
Voilà, pour les 20 ans de l'émission.
Je serais ravie si l'un de vos auditeurs me croise dans la rue et me fait un petit coucou.
D'accord.
N'hésitez surtout pas à m'aborder. Je suis quelqu'un de toute simple, vous savez.
Oui, oui. et peut-être qu'on renoue le plaisir un jour de vous recevoir ici dans les studios de Chalette. Ce serait pas mal.
Avec plaisir. En tout cas, bel été à vous toutes et tous. Et puis voilà, lisez, quoi que vous lisiez.
Exactement. Merci Mireille. Quant à nous, voilà, c'est la dernière émission de cette saison. Je vous souhaite un bel été. Prenez soin de vous. Nous allons nous retrouver en septembre avec de nouvelles aventures littéraires. En attendant, n'oubliez pas, délivrez-vous. C'est pour ceux qui aiment lire et puis pour ceux qui n'ont pas le temps. Mais en vacances, on a toujours le temps de lire un petit peu. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous remercie infiniment au nom de toute l'équipe de votre fidélité à l'émission et à la radio. Merci. À très bientôt. Au revoir.